Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, en ce mercredi 27 février 2020. Bonsoir, au micro, Jacques Aristide. À la une de l'actualité ce soir, des heurts en Guinée, des urnes détruites et l'armée en alerte à 3 jours d'un référendum à risque. En Guinée-Bissau voisine, Oumaro Sissoko Embalo se fait investir président malgré la contestation. Le Premier ministre Aristide Gomes parle de coup d'État. Vive critique de Washington sur la présidentielle au Togo. Les États-Unis réclament les résultats des bureaux de vote. Lomé rejette toute ingérence étrangère.
Trop tard, la CENI a déjà proclamé les résultats provisoires. La deuxième, c'est que c'est une disposition qui n'est pas prévue par les lois électorales togolaises.
Également dans l'actualité, l'Union africaine veut déployer 3000 soldats au Sahel pour tenter d'enrayer la progression du djihadisme dans la région. Et puis le coronavirus se propage désormais bien au-delà de la Chine et les mesures drastiques se multiplient au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique. Mais d'abord donc en Guinée, des affrontements ont opposé des manifestants forces de l'ordre aujourd'hui, où des urnes ont été détruites et où l'armée est en état d'alerte à 3 jours d'un référendum et 2 législatives que l'opposition entend boycotter et empêcher. Épicentre de la contestation contre l'intention prêtée au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat à la fin de l'année, le quartier de Wanindara, dans la banlieue de la capitale Conakry, a connu de nouveaux heurts. Des jeunes ont érigé des barricades, mis le feu à des pneus et jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. D'après des témoins, des affrontements similaires ont eu lieu à Pita. L'ONU a appelé Conakry aujourd'hui à veiller à ce que les élections à la fin de la semaine se déroulent donc de manière transparente afin d'éviter, dit-elle, des troubles supplémentaires. En Guinée-Bissau voisine, Oumaro Sissoko Embalo n'a pas fait marche arrière. Il a maintenu son investiture comme chef de l'État aujourd'hui lors d'une cérémonie dans un hôtel de la capitale. L'événement a eu lieu en dépit de la contestation qui perdure autour du résultat de la présidentielle du 29 décembre dernier. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
J'ai juré sur mon honneur de défendre la Constitution, de la respecter et de la faire respecter, a déclaré Oumaro Sissoko Embalo devant plusieurs centaines de personnes. Il a prêté serment alors que la Cour suprême est saisie d'un recours de son adversaire Domingos Simoes Pereira qui conteste les résultats proclamés par la CENI. Hier, le Premier ministre en exercice, Aristide Gomes, a dénoncé une tentative de coup d'État de la part de M. Sissoko Embalo. Ce dernier, candidat de l'opposition, a été donné vainqueur par la Commission nationale électorale avec 53,55% des voix contre 46,45% pour son adversaire, président du PAIGC, la formation qui domine la politique du pays depuis son indépendance en 1974. M. Pereira dénonce des fraudes, réclamant qu'on récompte les bulletins et s'en remette à la décision finale de la Cour suprême. M. Embalo estime que la décision n'appartient pas à la Cour suprême, soutenant que la commission électorale, sommée par cette Cour de vérifier les résultats, les a confirmés à plusieurs reprises.
De nouvelles critiques après l'élection présidentielle au Togo, un scrutin qui a vu la réélection de Faure Gnassingbé dès le premier tour. Le gouvernement américain dit rester préoccupé par des efforts d'observation limités. Washington appelle la commission électorale du pays à publier les résultats du bureau de vote par bureau de vote. La réaction de Lomé n'a pas tardé de la capitale togolaise, Kay Lorson.
Une mesure que le gouvernement du Togo pourrait prendre pour accroître la transparence est de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est ce que propose l'ambassade des États-Unis au Togo. Dans un communiqué, la représentation diplomatique américaine estime que c'est une voie pour rallier la confiance de tous en les résultats finaux. Contacté par VOA Afrique, le ministre togolais en charge des relations avec les institutions de la République, Christian Trimoin, juge la proposition américaine inopportune et tardive car, argumente-t-il, la commission électorale a déjà proclamé les résultats provisoires. Cette disposition n'est pas prévue par le code électoral, ajoute-t-il. Par ailleurs, les États-Unis ont exprimé leur déception par rapport à l'annulation de l'accréditation de la concertation nationale de la société civile accompagnée par les États-Unis en vue d'observer le processus électoral. L'observation des élections et la participation active de la société civile apportent crédibilité, transparence et intégrité au processus électoral, souligne l'ambassade. Tout en félicitant le peuple togolais pour son élection pacifique, les États-Unis rassurent qu'ils continueront à travailler avec le gouvernement et le peuple togolais pour le renforcement des institutions démocratiques. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
C'est une partie de l'Afrique qui est minée par les attaques terroristes et maintenant l'Union africaine dit vouloir apporter son aide. L'UA envisage d'envoyer 3000 militaires au Sahel pour tenter d'enrayer la progression du djihadisme, sans toutefois préciser les modalités et le calendrier exact de ce déploiement. Claire Morin-Gibourg.
C'est lors du sommet Union africaine et Union européenne à Addis Abeba que Smail Cherghi, commissaire à la paix et à la sécurité, a confirmé travailler au déploiement de 3000 soldats dans la région sahélienne. C'est une décision sur laquelle nous allons travailler avec le G5 Sahel et la CEDEAO, a précisé Smail Cherghi, qui a ajouté qu'elle était nécessaire car la menace progresse et devient complexe. Il n'a pas donné plus de précisions sur la composition de cette future force africaine au Sahel, ni sur les pays qui fourniront des soldats. La décision a été prise au début du mois, lors du dernier sommet de l'Union africaine, mais n'avait pas encore été rendue publique. Les violences djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires, ont fait 4000 morts au Mali, au Burkina et au Niger en 2019, malgré la présence de forces africaines, onusiennes et internationales.
Dans cette région encore, la force française Barkhane indique aujourd'hui avoir mis hors de combat une trentaine de djihadistes aux confins du Mali et du Niger. Au Niger, justement, un audit demandé par le chef de l'État Mahamadou Issoufou révèle des surfacturations, de même que des livraisons non effectuées dans des achats d'équipements pour l'armée. Le gouvernement veut faire rembourser les montants indûment perçus, mais ne précise pas les montants concernés ni les personnalités mises en cause. En Tunisie, après avoir obtenu la confiance du Parlement, le gouvernement d'Elyes Farkfakh a prêté serment aujourd'hui à un cabinet appelé à s'atteler rapidement à de lourds dossiers socio-économiques en suspens. Après plus de 14 heures de débat, l'Assemblée des représentants du peuple a approuvé la nouvelle équipe gouvernementale qui comprend 33 ministres et 2 secrétaires d'État. À 47 ans, Elyes Farkfakh devient le 8e Premier ministre en Tunisie depuis la révolution de 2011, ayant chassé le président Ben Ali. Et puis le Malawi rejoint ce jeudi les pays africains qui autorisent la culture et la commercialisation sur son territoire du cannabis à usage médicinal qui pourrait compenser pour partie sa production aujourd'hui déclinante de tabac.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'OMS a enregistré plus de 3500 cas de coronavirus dans 44 pays. L'Italie est le pays le plus touché en Europe. Au cours des dernières 24 heures, 7 pays, dont le Brésil, ont recensé en premier cas. L'Iran a annoncé 26 morts sur 245 cas confirmés. Riyad a suspendu l'arrivée de pèlerins et le Japon ferme ses écoles. L'organisation onusienne estime que l'épidémie a atteint un point décisif et appelle les pays à agir rapidement. Non, Nathalie Barge.
Le virus a fait plus de 2700 morts en Chine, où 78 000 personnes ont été contaminées. Tandis que les chiffres stagnent dans le pays, ils augmentent en Corée du Sud, le second pays le plus affecté, avec 505 nouveaux cas aujourd'hui sur un total de 1766. En Italie, la protection civile a publié un nouveau décompte du nombre de personnes testées positives, passé à 528, dont 14 décès. 11 villes sont en quarantaine dans le nord, en Lombardie et Vénétie. 18 cas et 2 morts en France qui avaient placé en quarantaine ses ressortissants rapatriés à Wuhan. 26 cas en Allemagne, dont 14 salariés contaminés par un collègue revenu de Chine. Plusieurs cas ont été enregistrés dans d'autres pays d'Europe à partir de contacts italiens. Plusieurs pays n'ont pas signalé de cas depuis plus de 2 semaines, comme la Belgique, le Cambodge, l'Inde, la Russie et le Vietnam, a relevé le directeur de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, soulignant que ces pays ont pris des mesures précoces efficaces et pressant les autres d'en faire autant.
En Syrie, djihadistes et rebelles ont repris la ville stratégique de Sarakeb dans la province d'Idleb. Il s'agit d'un revers infligé aux troupes du président syrien Bachar al-Assad dans cette région du pays. Les États-Unis ont exhorté l'Inde à respecter le droit des manifestants à se rassembler pacifiquement et ont appelé à la retenue après des violences intercommunautaires qui ont fait 33 morts à New Delhi. Les affrontements ont éclaté dimanche dernier lorsque des groupes hindous se sont opposés à une manifestation de musulmans contre une loi controversée sur la citoyenneté. Cette législation jugée discriminatoire pour les musulmans par ses détracteurs est à l'origine d'un vaste mouvement de contestation qui secoue l'Inde depuis décembre contre le gouvernement du nationaliste hindou Narendra Modi. Et voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Et maintenant, condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé le lancement d'un programme national d'éducation financière visant à améliorer l'accès des populations aux services financiers. Conçu en collaboration avec la Banque africaine de développement et l'Organisation internationale du travail, ce programme veut aussi sensibiliser aux risques du surendettement. La Banque mondiale a lancé un programme d'action ciblant les pays rongés par les conflits et la violence, en particulier en Afrique, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ce plan d'une durée de 5 ans est doté d'un financement de 18,7 milliards de dollars, soit une hausse de 30%. L'un des enjeux pour la Banque mondiale est d'intervenir le plus tôt possible, sans attendre un accord de paix ou de reconstruction. L'ABM travaille aussi sur la prévention des conflits violents, car selon eux, un dollar investi dans la prévention permet de sauver 16 dollars par la suite. En raison d'une croissance quasi nulle en 2020 et la persistance d'une grave insécurité alimentaire, le Zimbabwe est confronté à un risque de crise humanitaire majeure selon le FMI. Une hausse significative des dépenses sociales ne suffira probablement pas à satisfaire tous les besoins, s'inquiète l'institution financière.
Et maintenant, pour notre habituel tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Encore une victoire d'étape pour Jonathan Valencia au Tour du Rwanda.
Oui, le Colombien s'est imposé en 2h08:19 sur la cinquième étape courue entre Rubavu et Musanze, 84 km. Il a devancé au sprint le Français Romain Cardis et l'Érythréen Nathanael Tesfazion. C'est sa deuxième victoire d'étape sur le Tour. Jonathan Valencia avait déjà remporté la troisième étape mardi. Au classement général, Tesfazion reste en jaune avec 2:11 d'avance sur le Rwandais Moïse Mugisha et 3:22 d'avance sur le Sud-Africain Quint Mein. Place à la sixième étape demain entre Musanze et Muhanga, 127,3 km.
Coup dur pour Joel Embiid et Philadelphie.
Oui, le Camerounais s'est fait une entorse à l'épaule gauche contre Cleveland. Un coup suffisamment dur pour que les Sixers perdent pied chez l'avant-dernier de la conférence Est, 108-94. Hier, Joel Embiid a été condamné à une amende de 25 000 $ par la NBA. La Ligue lui reproche d'avoir adressé un doigt d'honneur à un joueur d'Atlanta lundi et prononcé l'injure correspondant à ce geste en interview télévisée d'après-match. L'amende infligée à Joel Embiid est plus élevée que la normale pour ce type d'infraction, la Ligue estimant qu'il n'en était pas à ses premières frasques sur un parquet.
16e de finale retour en Ligue Europa ce soir.
Les Néerlandais de l'Ajax Amsterdam vont devoir marquer au moins 3 buts à domicile contre Retafe pour renverser le score de l'acte 1-2-0 en Espagne. Manchester United reçoit Bruges après le match nul de 1-1. Arsenal lui reçoit l'Olympiakos. Quant à l'Inter Milan, sa victoire à l'aller 2-0 chez les Bulgares de Ludogorets lui fait croire au 8e de finale. Pour les interistes, la qualification devra se valider à huis clos, une décision prise par les autorités face à l'épidémie du nouveau coronavirus.
Et puis, début positif pour Thierry Henry et l'Impact Montréal.
Oui, grâce à un nul 0-0 à domicile contre le Deportivo Saprissa, l'Impact Montréal s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Le club canadien avait arraché le match nul 2-2 à San José, au Costa Rica, offrant à Thierry Henry des débuts réussis à défaut d'être encore victorieux.
On n'a que deux matchs dans les jambes. Donc terminer un match comme ça et de voir mon équipe se battre comme ça jusqu'à la fin, à l'aller et au retour, j'ai rien à leur dire sur ce plan-là, même s'il y a des choses qu'il va falloir bien sûr corriger. Mais au niveau de la combativité et de l'envie, il n'y avait rien à dire.
Thierry Henry, entraîneur de l'Impact Montréal.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est 14h45 à Washington, 19h45 en temps universel. Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide, toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. L'ambassade américaine à Lomé s'est prononcée sur l'élection présidentielle au Togo. D'après les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante, Faure Gnassingbé est réélu dès le premier tour avec plus de 72% des suffrages. L'opposant Agbeyoume Kodjo, arrivé en seconde position, a saisi la Cour constitutionnelle pour contester ces résultats. L'ambassade américaine suggère au gouvernement togolais de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Idriss Fall a recueilli la réaction de Christian Trimoua, ministre des Droits de l'Homme, chargé des relations avec les institutions de la République.
Nous comprenons la déception de l'ambassadeur des États-Unis à Lomé d'avoir vu une organisation de la société civile qu'il soutenait en violation des lois togolaises, voire son accréditation retirée. Mais d'autre part, nous regrettons que l'ambassadeur ait jugé nécessaire de faire de l'ingérence contre toute convenance diplomatique et en violation des lois togolaises dans le processus électoral togolais, en se faisant le porte-parole des revendications d'une des parties aux élections. Mais toutefois, le gouvernement togolais est ouvert à, dans le cadre d'une amélioration de ses lois électorales et dans le cadre de la consolidation de sa démocratie, à toutes les suggestions qui sont faites par les États-Unis. Et à ce titre, naturellement, nous réfléchirons aux propositions qui ont été faites dans le cadre de l'amélioration de nos lois pour le futur.
Mais pas pour le présent. Donc, il n'est pas question d'envisager une publication des résultats bureau de vote par bureau de vote.
Mais cette proposition faite par l'ambassadeur des États-Unis, d'abord, est inopportune parce qu'elle intervient trop tard. La CENI a déjà proclamé les résultats provisoires. La deuxième, c'est que c'est une disposition qui n'est pas prévue par les lois électorales togolaises. Nous en avions déjà longuement discuté. Il est au courant de cela puisqu'il fait partie du G5 à Lomé, donc du groupe des 5 États qui accompagnent le processus électoral togolais. Et donc, il connaît bien les positions là-dessus. Donc, pour ce processus-ci, on ne pourra pas le faire, le contentieux devant la Cour constitutionnelle qui doit proclamer les résultats définitifs. Il me semble que nous sommes en bout de procédure électorale et qu'on ne peut pas, dans ce cadre-là, commencer à remettre en cause les procédures électorales prévues par les lois togolaises.
L'ambassade a exprimé sa déception par rapport à l'annulation de l'accréditation de certaines organisations de la société civile qui devaient observer les élections.
Oui, l'ambassadeur regrette principalement le retrait d'accréditation à la concertation nationale de la société civile togolaise, qu'il soutenait lui-même, notamment qu'il a fait appuyer par des experts du NDA qui, eux, n'étaient pas accrédités. Et donc, naturellement, la violation des lois togolaises emporte retrait des accréditations. La concertation nationale de la société civile connaît ces principes-là et vous verrez que d'ailleurs, elle n'en a pas protesté fortement.
Qu'est-ce que vous reprochez au NDA, le National Democratic
Institute? Nous ne reprochons rien au NDA. Nous reprochons à la concertation nationale de la société civile qui a sollicité l'accréditation pour être observateur de n'avoir pas donné les bonnes informations qu'elle détenait, d'avoir introduit des experts du NDI dans le processus sans demander leur accréditation et ensuite d'avoir introduit du matériel pour compiler et publier les résultats, ce qui est contraire aux lois togolaises. Les observateurs électoraux n'ont pas vocation à compiler des résultats ni à les publier. Il n'y a que l'instance chargée de l'organisation, c'est la Commission électorale nationale togolaise, qui organise et supervise les élections et publie les résultats conformément aux lois togolaises.
Christian Trimoua était en ligne de Lomé. Il est le ministre des Droits humains chargé des relations avec les institutions de la République du Togo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Au Tchad, un responsable d'une ONG qui milite en faveur de la défense des droits humains a été enlevé pour être détenu au secret depuis plus d'un an. Sa famille et ses compagnons de lutte sont sans nouvelles de lui depuis cette date. Une situation qui inquiète la société civile tchadienne et les organisations internationales pour la défense des droits humains. de N'Djamena, le reportage de notre correspondant André Kodmajingar.
Pour avoir publié sur sa page Facebook un message textuel et audio sur la santé du président Déby, Paradil Berdei Targué, président de l'Organisation tchadienne des droits humains, derrière les barreaux depuis plus d'un mois, qualifiant son acte de cybercriminalité par les autorités de N'Djamena, il a été arrêté chez lui le 24 janvier dernier par des hommes armés et masqués et conduits à la direction de l'Agence nationale de sécurité ANS. Depuis lors, sa famille et ses avocats n'ont pas pu entrer en contact avec lui. La société civile tchadienne qualifie sa détention d'illégale et arbitraire. Mahamad Nouri Bedou est le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains.
Non seulement son arrestation est arbitraire et illégale parce qu'il n'y avait pas de mandat, sa détention l'est tout autant que nous avions demandé sa libération immédiate parce qu'il n'y avait pas de raison valable qui nécessite une arrestation. Il avait simplement sur sa page Facebook fait allusion à la maladie du chef de l'État qui en fait regarde tous les Tchadiens.
Le collectif des associations pour la défense des droits de l'homme exige sa libération inconditionnelle et le transfert de son dossier aux autorités judiciaires pour compétence si des charges pèsent contre lui. Pour Jimmy Arabi, ministre de la Justice, en dehors de son message posté sur sa page Facebook, Baradine Berdei Targué, proche du pouvoir de N'Djamena, mène des actions parallèles qui menacent l'ordre public.
C'est une arrestation en bonne et due forme qui est supervisée par le procureur de la République. C'est une personne qui fait des activités subversives par l'intermédiaire des réseaux sociaux et le devoir de l'État d'y mettre fin à ses pratiques. C'est pour ça que cette personne a été arrêtée pour une enquête sur la cybercriminalité.
Le collectif des avocats de ce défenseur des droits de l'homme dénonce également la procédure dans l'arrestation et la détention de leurs clients. Max Loalngar, par ailleurs président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, fait partie du collectif.
Quand les gens s'introduisent chez vous et en veulent à votre vie et à celle de vos familles, c'est inadmissible. Il y a vraiment à craindre pour la sécurité des populations. Si c'est une interpellation correcte, ils auraient pu venir à visage découvert. C'est fait est gravissime et il convient d'interpeller le gouvernement et les autorités afin qu'ils soient systématiquement, tout simplement libérés.
Amnesty International a, dans une correspondance adressée au président Déby, déclaré que Baradine Berdei Targué pourrait être en danger et exige qu'il ne soit soumis à aucun acte de torture ou mauvais traitement. L'organisation rappelle que la durée maximale de garde à vue de 4 jours selon le code de procédure pénale tchadien est dépassée et demande sa libération immédiate et sans condition. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
L'épidémie de coronavirus inquiète toute la planète. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump tente de rassurer les Américains. Le locataire de la Maison-Blanche affirme que la situation dans le pays est sous contrôle. Comme nous allons l'entendre dans le reportage de Patsy Vidakusrawa, le récit est de Lionel Gaïma.
Lors d'une rare apparition dans la salle de briefing de la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif américain a expliqué les efforts du gouvernement fédéral en vue de contenir le coronavirus.
Compte tenu de tout ce que nous avons fait, le risque pour le peuple américain demeure très bas.
L'administration Trump a demandé 2,5 milliards de dollars au Congrès pour faire face à la situation. Les Américains devront s'attendre à des cas de coronavirus et à des perturbations dans leur vie, a averti le Centre américain pour le contrôle des maladies, le CDC. Le président Trump accuse les médias d'exagérer les risques de propagation du virus et d'alarmer les marchés boursiers. Une réponse équilibrée est nécessaire, souligne Jennifer Nuzzo du Centre de la sécurité sanitaire de l'Université Johns Hopkins.
Évidemment, nous voulons veiller à atténuer les répercussions économiques et l'incidence que la peur du public a sur cela, mais le message général est que nous devons nous attendre à des cas ici, nous apprêter à y faire face, envisager les moyens d'une réduction de l'impact.
On dénombre déjà des dizaines de cas de coronavirus aux États-Unis et d'autres devraient se manifester. Jusqu'ici, les services de santé américains ont effectué des tests sur bien moins de 500 personnes rentrant d'un voyage en Chine. Pour le chef de l'exécutif américain, des efforts sont déployés dans ce sens.
Allez-vous effectuer plus de tests?
Nous faisons des tests sur tous ceux sur qui nous avons besoin de le faire. Et nous rencontrons très peu de problèmes.
L'opposition démocrate accuse le président Trump de minimiser la menace. Chuck Schumer, leader de la minorité démocrate au Sénat.
L'administration n'a aucun plan. Elle a coupé à plusieurs reprises nos lignes de défense, que ce soit au CDC ou au Conseil national de la sécurité.
Plusieurs États américains se préparent au pire, y compris New York, dont le gouverneur Andrew Cuomo a requis 40 millions de dollars d'aide fédérale additionnelle.
Nous demanderons aussi au gouvernement fédéral de permettre à notre État de procéder à ses propres tests. Il dispose d'un département de la santé et d'un laboratoire très sophistiqué.
Le président Trump a nommé son vice-président Mike Pence à la tête de l'initiative fédérale pour contrer la propagation du coronavirus ici aux États-Unis.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le quatrième et dernier dossier dans le monde aujourd'hui, le FBI. Le FBI tend à se féminiser pour rétablir l'équilibre des genres au sein de ses équipes d'agents spéciaux et pour mieux répondre à sa mission de protection des citoyens américains. Nathalie Barge s'est rendue au quartier général du bureau ici à Washington pour tendre le micro à deux femmes cadres de la fameuse police fédérale américaine, rendue célèbre dans le monde à travers d'innombrables productions hollywoodiennes.
En plus d'un siècle d'existence, le FBI n'a jamais été dirigé par une femme. De même que la promotion d'agent spécial sera rarement accordée à une femme, après la première admise à ce titre en 1922, Alaska Davidson. Il faudra attendre plusieurs décennies, notamment 2015, pour que les femmes parviennent à s'imposer en plus grand nombre et occupent des postes à responsabilité. C'est le cas de Jill Tyson, nommée en 2019 directrice adjointe du bureau des affaires du Congrès au FBI.
Mon premier jour de travail, je suis entrée dans cette salle et j'étais la seule femme. J'étais nerveuse, intimidée, car toute nouvelle. Mais j'ai essayé de canaliser cette nervosité pour la transformer en motivation. J'ai le sentiment d'avoir gagné ma place à cette table. Le sentiment que chaque jour, je travaille très dur pour m'assurer d'être à cette table.
En 2019, les femmes représentaient 36% des aspirants au statut d'agent spécial. Au final, elles représentent un cinquième des quelques 13 500 agents du FBI. Les femmes chefs de service et de secteur, qui sont 70, représentaient 24% des cadres supérieurs au 9 janvier 2020. Kerry Farley, chef de section à la division antiterrorisme, est l'une de ces femmes. Pour elle, la question du plafond de verre ne se pose pas.
En fait, ma nouvelle patronne, c'est la première femme directrice adjointe de la lutte contre le terrorisme. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont les femmes excellent au sein du FBI. Les femmes ont certainement la possibilité de réussir à tous les niveaux du FBI.
Le FBI a une soixantaine de bureaux à l'étranger, dont 9 en Afrique, et effectue des opérations avec ses partenaires qui conduisent à des arrestations de masse et démantèlement de réseaux criminels. Les deux agents spéciaux soulignent qu'il est primordial de collaborer dans le monde entier.
Nous avons beaucoup de bureaux en Afrique où notre personnel travaille avec les forces de l'ordre africaines pour prévenir les attaques et résoudre les problèmes locaux. Nous avons des formations inter-États avec plusieurs pays qui viennent ici aux États-Unis dans le cadre de notre École d'entraînement national, l'Académie du FBI à Quantico, en Virginie. Il y a donc beaucoup d'interactions et d'excellentes relations dans la région.
Plus nous aurons de femmes dans le domaine de l'application des lois à travers le monde, plus nous serons efficaces, parce que grâce à cette perspective diversifiée et en ayant des points de vue féminins et masculins ensemble, nous ferons un meilleur travail pour prévenir et résoudre le crime.
Le 2 juin 1976, Sylvia Elizabeth Mattis est devenue la première femme afro-américaine agent spécial du FBI, qui lui avait alors remis un attaché case, un sac discret et un revolver avec canon retroussé assez court pour tenir dans le petit sac. Comme Alaska Davidson en 1922, Jill Tyson et Kerry Farley de nos jours, Sylvia Mattis a juré de faire preuve de fidélité, bravoure et intégrité, la devise du FBI.
Eh bien voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La mise en onde a été assurée par Cheik Thierro. À la console, on avait notre ami Dan Crafton. Merci bien Dan. Merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. Mille merci encore pour votre fidélité. À très bientôt, comme on dit. Take care. Prenez bien soin de vous.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.